Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Sophie Malibaud.
Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour cette heure d'appel sur l'actualité jusqu'à 9h en temps universel, 11h heure de Paris. Dans une demi-heure, nous ouvrons le débat sur les priorités diplomatiques de la France. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet ce mardi à l'Élysée devant un parterre d'ambassadeurs. C'est un rendez-vous incontournable de chaque rentrée, un événement qui permet de clarifier la position de la France sur le rôle que le chef de l'État entend lui attribuer dans le concert des nations. Il y avait deux maîtres mots dans le discours de François Hollande ce mardi, deux enjeux majeurs, la lutte contre le réchauffement climatique d'une part et le terrorisme d'autre part. Mais il a été également question du développement des droits de l'homme et de la francophonie. Qu'il s'agisse des discours ou des actes, comment est-ce que vous percevez l'action diplomatique de la France? Quelles évolutions avez-vous remarquées? Nous entendrons vos commentaires à ce sujet dans une petite demi-heure. Mais auparavant, comme chaque jour, nous commençons par vos questions sur l'actualité. Vos questions à un journaliste de la rédaction ou un expert de la question contacté pour vous répondre et pour vous aider à décrypter l'information. Nous revenons pour commencer sur la crise migratoire en Europe et plus précisément sur ces migrants qui parviennent à Calais, dans le nord de la France, pour passer clandestinement outre-Manche et rentrer en Grande-Bretagne. Nos auditeurs veulent en savoir plus sur l'accord passé entre la France et la Grande-Bretagne. Nous avons tout d'abord Alpha Oumar au téléphone. Il nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Alpha. Bonjour Alpha Oumar.
Bonjour RFI et bonjour à tous les auteurs de RFI.
Quelle est votre question, Alpha?
Ok. Ces derniers temps, j'ai entendu sur RFI un accord a été signé entre la France et la Grande-Bretagne sur les immigrants à Calais. Je veux savoir pourquoi certains immigrants veulent côte à côte quitter la France pour l'Angleterre.
Oui, alors effectivement, la semaine dernière, les ministres français et britanniques de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et Theresa May, ministre britannique, se sont rencontrés à Calais pour signer un accord afin de renforcer la coopération entre les deux pays pour lutter contre l'immigration illégale et empêcher notamment le franchissement de la Manche dans des conditions dangereuses par des clandestins, des personnes qui donc risquent leur vie dans ce tunnel sous la Manche. Alice Posicki du service France de RFI est en studio pour vous répondre. Bonjour Alice.
Bonjour Sophie.
Donc vous avez récemment couvert les événements à Calais. Et pourquoi donc ces tentatives désespérées de rejoindre l'Angleterre en particulier? C'est ce que nous demande Alpha Oumar.
Alors il y a un terme qui revient beaucoup quand on parle de ce que représente l'Angleterre pour les migrants. C'est Eldorado. Et c'est vrai Alpha Oumar, vous avez raison. Ceux qui essayent de passer veulent à tout prix rejoindre l'Angleterre. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord le fait que la plupart de ces migrants parlent anglais. Et c'est donc plus facile pour eux de construire une nouvelle vie dans un pays dont ils maîtrisent la langue. Mais surtout, il y a la législation britannique. C'est plus facile de travailler au noir au Royaume-Uni qu'en France, notamment parce que là-bas, il n'y a pas de carte d'identité. Et ça, ça complique les contrôles de police.
Mais il y a une loi qui est passée et qui pourrait durcir les contrôles, justement.
Oui,
changerait la situation, donc.
Absolument. La loi a obligé déjà les employeurs à vérifier que leurs salariés avaient bien le droit d'habiter au Royaume-Uni. Mais cette loi, elle va être durcie. Le gouvernement britannique l'a annoncé mardi. Les travailleurs clandestins risqueront désormais jusqu'à 6 mois de prison, une amende illimitée et la saisie de leur salaire. Cette loi, elle veut aussi décourager un peu plus les employeurs, les pubs, les bars, les commerces ou les restaurants. On pourra désormais leur retirer leur permis d'exercer.
C'est donc une sorte d'arsenal législatif dissuasif. Nous avons un autre auditeur en ligne sur ce sujet, Safou qu'on n'arrive pas à joindre au téléphone. Bon, Safou qui essayait de nous appeler de Libreville au Gabon, il voulait vous interroger, Safou. Sur les mesures prises dans cet accord de coopération entre la France et la Grande-Bretagne. En quoi consistent ces mesures, Alice ?
Alors, il y a plusieurs points. Il y a d'abord la sécurisation du site d'Eurotunnel. Avant, les migrants essayaient de partir vers l'Angleterre en passant par le port de Calais, en montant dans les camions. Mais des grandes barrières ont été installées, si bien que le port est devenu complètement inaccessible. Les migrants sont donc déportés massivement vers le site du tunnel sous la Manche, qui relie justement la France et l'Angleterre, jusqu'à 2000 tentatives d'intrusion chaque nuit vers fin juillet. L'accord prévoit donc d'empêcher un maximum les migrants de passer par là. Concrètement, la France s'occupe des moyens humains. Elle a déjà déployé 500 policiers et gendarmes dans la région. Et la Grande-Bretagne, elle met la main au porte-monnaie et elle finance des barrières de 4 mètres de haut, des barrières aussi infrarouges qui sont plus discrètes et plus modernes, et puis des caméras vidéo.
Mmh. Alors, je crois que nous n'avons toujours pas Safou au téléphone. Je vais me faire l'interprète de ces questions parce qu'il voulait également savoir si ces mesures étaient en fait des mesures d'urgence ou bien des mesures qui prévoyaient une solution à long terme sur la crise migratoire et sur cet attrait de l'Angleterre pour les clandestins.
Si on écoute les gouvernements des deux pays, c'est vrai que cet accord doit permettre de résoudre la crise à Calais, ça c'est l'ambition, mais ça c'est sur le papier, puisque si on reprend le premier point, par exemple la sécurisation du site d'Eurotunnel, on l'a vu avec les travaux qui ont été menés sur le port, ça n'a pas dissuadé les migrants, ça a simplement déplacé le problème. Donc si les barrières du tunnel sous la Manche deviennent infranchissables, les migrants, vu leur détermination, on en a parlé, ils veulent vraiment passer en Angleterre, mais ils trouveront un autre moyen de passer.
Mmh. Alice Posicky, donc du service France de RFI, merci beaucoup. Nous espérons donc que Safou aura pu vous entendre de Libreville, puisqu'il vous souhaitait vous interroger sur ce sujet. Cap sur la péninsule coréenne à présent. On a finalement assisté à quelque chose qui semble assez rare entre les deux Corées cette semaine. Un accord conclu entre ces deux pays, Corée du Nord, Corée du Sud, après 40 heures d'âpre pour parler. Un accord conclu à l'issue d'une escalade de la tension. Il y a eu notamment des échanges de tirs, des obus tirés par le Sud en direction du Nord, en représailles d'une attaque à la roquette par Pyongyang. Alors c'est Uri qui nous appelle de Kenitra en Tunisie pour en savoir plus. Bonjour Uri.
Bonjour Sophie, c'est pas en Tunisie, mais plutôt wow.
Alors, vous souhaitez que l'on revienne dans un premier temps sur ces événements qui se sont produits avant que le dialogue ne reprenne et que les deux pays ne tombent sur un accord finalement. Quelle est votre question, Uri?
Oui, Sophie, comme vous venez de le dire, on a assisté à ces dernières semaines à des tensions très vives entre les deux Corées. Alors cela m'amène à me poser un certain nombre de questions, notamment pourquoi la Corée du Nord a-t-elle lancé un missile en direction de la Corée du Sud?
Alors pour...
Là, c'est la première question.
Entendu. Donc pour vous répondre, nous avons Marianne Perrondoise en ligne. Bonjour Marianne.
Bonjour Sophie.
Bonjour. Alors vous êtes analyste des questions sécuritaires en Asie du Nord. Alors que peut-on dire de cette nouvelle séquence dans les relations entre Séoul et Pyongyang? Et donc, comme nous le demandait Uri, pourquoi ce tir de roquette par les Nord-Coréens?
Alors si on remonte la chronologie factuelle de ce dernier incident, puisque malheureusement ça n'est pas le seul, il y a toute une longue séquence, eh bien l'élément déclencheur apparemment a été, on s'en souvient, l'explosion de deux mines antipersonnelles en début de mois qui ont blessé deux soldats sud-coréens. Et l'incident s'est déroulé dans la fameuse zone démilitarisée, la DMZ, la Demilitarized Zone, dont on sait qu'elle sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre et depuis la signature de l'armistice en 1953. Et j'insiste là-dessus parce que finalement, cette zone démilitarisée d'une profondeur de 30 kilomètres à peu près voit déjà la Corée du Nord, les soldats nord-coréens et les soldats sud-coréens dans un face-à-face tendu où chacun s'observe avec beaucoup de vigilance et d'animosité, et on sent finalement que des deux côtés, on a déjà le doigt sur la gâchette. Mmh. Alors, Quand on revient à cet incident de mine antipersonnel, évidemment la Corée du Sud a riposté et a pris comme initiative en mesure de rétorsion de revenir à la diffusion de messages hostiles, de messages dits de propagande qui sont diffusés par des haut-parleurs de l'autre côté de la frontière de façon à déstabiliser le Nord, à essayer d'influencer les populations, ce qui évidemment est une mesure qui a été très mal prise par la Corée du Nord, qui de son côté a cherché à cibler les haut-parleurs et donc à tirer des obus en direction de ces haut-parleurs pour faire cesser leur émission. J'ajoute que la diffusion de ces messages à très forte puissance en direction du Nord, elle avait été interrompue depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Donc c'était quand même une initiative assez significative de la part de la Corée du Sud de prendre la décision de reprendre ces diffusions.
Mm-hmm. Et donc, Uri, vous avez une autre question à Marianne Perrondoise.
Oui, Sophie, on a assisté à un accord. On peut savoir la position de la Chine. À quel rôle dans cet accord?
Oui, effectivement, hein, Séoul et Pyongyang ont fini par entamer des pourparlers pour obtenir une désescalade de ces tensions, Marianne. Et donc, notre auditeur se demande si la Chine a joué un rôle dans ces pourparlers.
Alors il faut bien comprendre que derrière le couple infernal, si j'ose dire, Corée du Sud, Corée du Nord, il y a deux puissants partenaires. Derrière la Corée du Sud, les États-Unis, hein, puisqu'on se rappelle que pratiquement 30 000 soldats américains sont toujours déployés au Sud dans le cadre d'un accord de sécurité avec la Corée du Sud, et que le principal partenaire de la Corée du Nord, eh bien c'est la Chine qui joue toujours les médiateurs et essaye de calmer le jeu, tout en soutenant implicitement la Corée du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a le sentiment d'un agacement assez prononcé de la Chine devant les provocations répétées et les incidents dont la Corée du Nord est à l'origine. Ce qui fait que les déclarations chinoises ont été apparemment assez neutres, puisqu'il y a eu des messages diplomatiques exhortant les parties en présence à résoudre leurs conflits par le dialogue, un appel à la coopération. Mais justement, dans la formulation de ces messages, on a bien vu que les deux parties, Corée du Sud et Corée du Nord, étaient placées sur un pied d'égalité. Alors que, généralement, la Chine pointe du doigt la Corée du Sud en mettant une forme de pression diplomatique, en insistant sur, justement, la présence américaine comme un élément déstabilisateur. Là, au contraire, la Chine a été très neutre et on a bien senti, je le répète, son agacement et puis sa crainte, au fond, devant cet incident qui, on en a bien conscience, aurait pu dégénérer en conflit armé. Sachant que la Chine traverse une assez mauvaise passe économiquement en ce moment et qu'elle elle n'a pas besoin d'un conflit à sa porte, mm-hmm. Dont la Corée du Nord serait à l'origine, évidemment.
Effectivement. Et alors, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Notre auditeur se demandait aussi si c'était la première fois qu'il y avait ce genre d'incident. Pas tout à fait, mais ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu, vous le disiez.
Oui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe des deux côtés de la frontière, bon, les échanges de tirs d'artillerie sont assez fréquents. Vous avez ce qu'on appelle des activistes sud-coréens qui régulièrement essayent de faire passer des ballons gonflables avec des messages exhortant la population nord-coréenne à se révolter, avec des bibles, voire quelquefois des postes radio pour permettre aux nord-coréens finalement d'échanger des impressions et puis d'avoir une ouverture sur le monde qu'ils sont loin d'avoir. Mais il y a aussi évidemment des incidents beaucoup plus graves, puisque la Corée du Nord en est à son troisième essai de missile nucléaire. Mm-hmm. Et la dernière crise importante à cet effet, elle date quand même de 2013. Il faut se rappeler que à la suite non seulement d'un tir de satellite qui a été assimilé un tir de missile balistique, il y a eu des essais nucléaires souterrains donc en 2013, et que la Corée du Nord est sous sanction internationale.
Oui. C'est une situation, c'est pour ça qu'il y a une situation toujours vraiment précaire dans cette région du monde. Oui. Mais je vous remercie beaucoup, Marianne Perrondoise. J'imagine que Uri aura eu donc de grandes explications, de larges explications sur ce problème. Merci à vous. Alors, nous allons à présent rejoindre Eric au téléphone. Eric qui nous appelle de Mbadoukana en Angola. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, votre attention a été retenue par une demande émanant de la République démocratique du Congo. Quelle est votre question, Eric?
Bon, justement, le gouvernement congolais avait récemment demandé aux pays pollueurs une somme de 21 milliards de dollars pour la préservation de la forêt équatoriale. Alors, ma préoccupation est celle de savoir quelles sont les raisons avancées par le gouvernement congolais pour soutenir leurs demandes et quelles sont les chances, à votre avis, que ces pays acceptent de payer cette somme.
Donc, alors, dans un premier temps, votre question porte sur ce que la RDC demande comme aide financière pour pouvoir, en fait, remplir ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une demande de financement qui intervient opportunément en amont de la conférence sur le climat prévue fin novembre à Paris, la COP21, conférence internationale lors de laquelle les pays du monde entier doivent s'engager de façon ferme et précise contre le réchauffement climatique et évidemment, cela a un coût que chaque pays évalue à sa façon. Alors nous avons à nos côtés, au téléphone pour vous répondre, le spécialiste Pierre Radan. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors nos auditeurs vous connaissent bien, notamment pour vos interventions en tant qu'expert des questions énergétiques et écologiques, puisque vous faites aussi une chronique régulière sur l'antenne tous les samedis matins. Alors dites-nous Pierre Radan, ces 22 milliards de dollars dont la RDC aurait besoin, en fait, à quoi cela correspond, nous demande Eric?
Eh bien, les pays en développement, d'une manière générale, doivent participer au nouvel accord. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, écoutez, vous pouvez plus utiliser massivement les combustibles fossiles, pas plus que les pays développés. Or, ces pays-là, pour l'instant, ils ont des niveaux d'émissions qui sont très faibles et que leur aspiration jusqu'à présent, donc au développement, bah, c'était, comme tout le monde, de consommer du pétrole, du gaz, du charbon, etc. Et alors maintenant, on leur dit, il faut que vous présentiez une contribution, c'est-à-dire une stratégie nationale pour 2030, dans laquelle vous expliquez comment vous allez pouvoir aller vers une nouvelle voie de développement inédite dans l'histoire, c'est-à-dire passer de la situation de pauvreté actuelle à un nouveau mode de vie, mais sans encore une fois passer par le pétrole, le charbon et le gaz. Et puis bien sûr, dans le cas de la RDC, éviter la déforestation de la forêt équatoriale, parce que cette forêt stocke des grandes quantités donc de carbone qu'il faut bien évidemment pas relarguer dans l'atmosphère.
Oui, c'est ça qui est important, Pierre. C'est d'expliquer aussi ce lien. On appelle les forêts en fait des puits de carbone. Elles jouent un rôle.
Elles stockent du carbone. Elles régulent le climat de la planète, notamment l'évaporation. Elles évitent l'évaporation dans les grandes régions équatoriales et sont absolument décisives pour la planète. Bon, on connaît bien le sujet sur l'Amazonie. C'est la même chose pour ce qui concerne le bassin du Congo en général. Mmh. Donc il a été décidé que les pays développés devaient donner des capacités financières aux pays en développement et aussi des technologies. Ça a été décidé.
Attendez Pierre, avant qu'on en arrive là, je voulais aussi vous demander, préciser autre chose. Ces 22 milliards de dollars, malgré tout, ils ne concernent pas que la déforestation. C'est un coût qui englobe la déforestation.
C'est l'énergie, c'est l'agriculture, c'est l'ensemble de tout ce qui est relié à cette question donc de changement climatique. Donc il a été décidé à Copenhague en 2009 que les pays développés devaient faire un transfert net d'argent vers les pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Mmh. Ça a été décidé en 2009. Mmh. Et donc depuis a été créé le Fonds vert pour le climat, qui est doté par les grands pays, donc notamment l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon, etc., pour aider les pays en développement. Alors, il y a une ambiguïté dans cette discussion.
Je crois qu'on va pas pouvoir prolonger beaucoup, parce que finalement, l'émission touche à sa fin. Enfin, on a compris qu'il était tout de même prévu que donc les pays développés, les anciens pays pollueurs, finalement, mettent la main à la poche. Je vous remercie, Pierre Radan. Merci.